ce moment, avec ce sale temps, j'ai envie de rien faire. J'ai l'impression qu'il se passe rien.
Bah, attends, Mimi, mets la GT du local. C'est ton coup de mou de l'hiver, tu vas voir, le monde, il continue de tourner.
Les TCA, ou troubles des conduites alimentaires, sont des maladies vécues en silence et avec une certaine impuissance de l'entourage lorsque quelqu'un y est confronté. Il n'est pas évident de les comprendre et difficile d'en parler quand on est concerné par l'une d'entre elles. Et mon invitée d'aujourd'hui est metteuse en scène et autrice de théâtre et travaille justement sur cette thématique pour son prochain spectacle en cours d'écriture. Il s'agit de Lucie Rimbaud, que l'on retrouve dans quelques instants, qui nous parlera notamment de sa récolte de témoignages lors de sa résidence à l'Agricampus de Laval. Bien sûr, l'actu en bref arrive en milieu d'émission avec Lucie qui est à mes côtés. Bonjour Lucie.
Bonjour Margot.
On continuera cette émission avec le trophée industriel qui a récompensé 4 femmes pour leur récompense, pour leur parcours remarquable lors de cette 15e édition. La semaine dernière à Laval, Lucie, tu t'es rendue à cet événement organisé par l'Union des industries et métiers de la métallurgie. On découvre tout ça tout à l'heure avec toi et cet agité se termine avec la chronique Un autre écho de l'écho de Soisy qui nous rejoint aussi dans quelques instants en studio. Bienvenue à vous, amis auditeuristes dans l'agité du local. Je suis Margot, on est ensemble pendant 30 minutes et ça commence maintenant. Bonjour Lucie Rimbaud, donc vous êtes autrice et metteuse en scène au sein de l'Anima Compagnie à Laval. Vous étiez en résidence à l'Agricampus de Laval du 18 au 22 mars auprès des élèves pour la création de votre prochaine pièce dont le thème porte sur les troubles des conduites alimentaires chez les adolescents. Alors le spectacle s'appellera a priori « Tout y est encore debout » et sortira à l'automne 2025. Alors peut-être pour commencer, on peut expliquer ce qu'est un trouble des conduites alimentaires.
Bonjour Margot, merci de m'accueillir ici dans notre radio. Donc un trouble des conduites alimentaires, c'est pas seulement un problème de poids ou alimentaire pur, c'est aussi une maladie plus psychique en fait, et donc qui concerne plutôt le fait d'être obsédé en fait par la nourriture, dans soit le fait de vouloir absolument être mince ou ne pas prendre de poids, soit une nourriture comme un apaisement qui donc crée l'apaisement. Donc il y a la Haute Autorité de Santé qui définit les TCA, en fait c'est une définition plutôt contemporaine on va dire, et donc elle parle bien de troubles psychiatriques, voilà, avec des perturbations du comportement alimentaire et un problème d'estime de soi qui est donc influencé de manière excessive par le poids et la forme corporelle. Au sein des TCA, il y a 3 grandes catégories. Il y a l'anorexie, donc là qui est liée à qui est une forme de restriction alimentaire, en fait, liée à une peur de prendre du poids. Il y a aussi l'hyperphagie, on appelle ça. Donc là, c'est le fait d'ingérer de grosses quantités de nourriture en un temps record, avec un sentiment de perte de contrôle. Hein. Et puis, il y a la boulimie, qui est donc là un peu entre les deux. En fait, c'est d'abord un comportement d'hyperphagie. Donc, c'est d'abord, on fait une crise. Il y a donc une ingestion importante de nourriture, mais qui est suivie par des comportements qu'on appelle des compensations visant à perdre le poids. Donc, qui peut être soit pour le vomissement, mais aussi la prise de soit du sport, des laxatifs, etc. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grandes catégories. Il n'est pas rare de passer de l'un à l'autre. Donc la boulimie, elle est un peu entre les deux parce qu'il y a quand même cette peur de prendre du poids. Moi, de ce que je connais, parce que moi j'ai vécu cette maladie. Enfin, moi j'ai été boulimique pendant longtemps, à l'adolescence. Ça a démarré à l'adolescence. Et donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on peut à la fois être dans l'anorexie, puis craquer et donc avoir une crise boulimique. Voilà. Donc, c'est pas aussi, c'est des catégories un peu poreuses, en tout cas.
Ce que vous disiez, c'est que pour vous, ça a commencé à l'adolescence. Ça peut même parfois commencer un peu plus tôt. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est quelque chose dont on ne se sépare pas comme ça. C'est quelque chose qui reste présent et qui peut revenir. Il faut rester vigilant face à ses propres conduites. J'ai le sentiment que ces conduites sont très liées à l'émotionnel. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à vos recherches et même vos témoignages ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a deux moments un peu charnières. Donc, les troubles apparaissent souvent à 14-15 ans. Donc là, c'est le moment où les femmes, parce que ça concerne 90% de femmes, ces maladies. Hein, c'est pour ça que je dis ça, je généralise. En fait, c'est le moment de la puberté, donc où les formes commencent à poindre. Et donc, pour certaines jeunes filles, il y a un refus de la féminité, un refus de, bah, d'avoir des formes, des règles, etc. Donc ça, c'est un premier moment un peu clé. Puis le deuxième moment de un peu charnière par rapport à ces troubles, c'est plutôt au moment de 18-19 ans, au moment de partir du foyer, en fait. Parce que c'est aussi une grande période, donc une période importante dans le changement d'une jeune fille.
Pendant une semaine à l'Agricampus, vous avez été présente auprès des élèves, notamment pour animer des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ?
Donc moi, j'étais pendant une semaine à l'Agricampus. J'ai préparé ma venue avec l'équipe pédagogique formidable composée par Julien Gauthier, Nathalie Sénéchal et Nadège Brodin. Et donc, on a tissé ensemble le cadre un peu de mes interventions, à la fois pour que ça me serve à moi, disons, pour préparer mon spectacle, mais qu'aussi ça puisse servir aux élèves et aux enseignants. Donc, c'est pourquoi je suis intervenue, en fait, plutôt sur quelques ateliers en fonction du programme des élèves et de ce que les professeurs voulaient que je travaille. Donc on a fait des ateliers théâtre un peu d'initiation avec c'est quoi prendre la parole en public, c'est quoi la gestion de ses émotions, comment parler devant un groupe qui peuvent leur servir donc dans leur vie professionnelle. Et pour deux classes en particulier, la classe seconde AH, activité hippique et la première STAV, j'ai commencé par un atelier où on a commencé par le travail du corps, parce que moi j'ai aussi une formation de danseuse et voilà, c'est très essentiel dans mon travail. Donc on est parti de ça, de aussi est-ce qu'il y avait des parties de mon corps que j'avais envie de mettre en avant ou au contraire d'effacer. Et l'idée, c'était de commencer à les amener, enfin amener une réflexion sur le corps, sur les injonctions hein, de la société concernant ce qui est attendu d'une femme, d'un homme. C'est quoi être beau, être belle? Est-ce que les jeunes se reconnaissaient dans ces injonctions-là? Est-ce qu'ils voulaient s'en émanciper? Et puis après, je les ai vus de manière individuelle. Chacun, chacune. Il est nécessaire d'avoir un lien de confiance parce que moi, dans mon spectacle, donc je pars de mon expérience personnelle, moi qui ai souffert de cette maladie, comme je disais tout à l'heure, mais je pars aussi de beaucoup de témoignages de jeunes filles qui sont passées aussi par ces maladies et qui ont la nécessité de raconter ça une fois qu'elles s'en sont sorties. Et donc j'ai un peu plusieurs sources, mais j'avais très envie aussi d'entendre la parole des adolescents et des adolescentes sur ce sujet, parce que d'une part, à mon époque, moi, j'ai souffert en silence un peu de cette maladie, c'est-à-dire dans le secret, alors qu'à l'heure actuelle, je sais que voilà, les réseaux sociaux ont une place importante à la fois dans l'aggravation, on va dire, de ces maladies, c'est-à-dire que en ce qu'elle colporte les canons de beauté aussi. Il y a les défis maigreur aussi sur TikTok, etc., qui sont relayés. Mais aussi, je pense que ça n'a pas que du mauvais, mais en tout cas, il y a tout ce rapport je suis plus seule avec ma maladie, mais en tout cas, je peux être seule dans ma maladie avec vis-à-vis de ma famille ou de mes proches, mais très connectée à d'autres personnes dans le monde.
Ce qui me semble intéressant, c'est que vous disiez que vous êtes partie aussi de témoignages de personnes qui avaient envie de le raconter une fois qu'elles en étaient sorties. Vous aussi, vous dites l'avoir vécu en silence. Au moment où on est confronté soi-même à cette difficulté dans notre rapport à la nourriture, c'est compliqué de mettre des mots, c'est compliqué de comprendre ce qui se passe.
Annie Ernaux, elle a souffert de TCA et elle en parle dans Mémoire de fille. Et en fait, elle s'est rendue compte bien après que c'était une maladie. Au début, elle pensait en souffrir seule. Et le premier pas, c'est d'en parler. Moi, j'ai attendu vraiment très, très, très longtemps avant d'en parler. Et la première fois, c'est un événement. Et c'est la première étape pour s'en sortir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une honte immense d'être là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de personne qui ignore ce qui est véritablement en jeu dans ces maladies. On n'est pas dans une question de volonté, on n'est pas dans une question de satiété, c'est autre chose qui se passe.
Vous parliez tout à l'heure de perte de contrôle, c'est vraiment le sentiment à ce moment-là?
En fait, c'est des maladies d'addiction. Donc c'est plutôt le même rapport qu'on aurait avec une drogue ou avec de l'alcool.
Dans la phase de création dans laquelle vous êtes actuellement, est-ce que le point de vue que vous souhaitez adopter est déjà choisi par rapport à cette thématique ?
Alors oui, en fait, on va suivre Lou, qui est une jeune fille de 15 ans, qui va développer un trouble des conduites alimentaires. Et moi, je voudrais voir comment elle, en fait, tout un processus, comment elle tombe dans cette maladie. Et donc tout le premier mouvement du spectacle, c'est ça qui se raconte, avec notamment aussi tout le rapport, comme je disais, à l'addiction et donc à une distorsion du réel, jusqu'au point où donc elle va en fait être hospitalisée parce qu'elle y a un danger vital pour elle, un danger de mort notamment parce qu'elle cesse de manger. Ce qui arrive bien souvent dans le parcours des anorexiques. Et donc après, toute la deuxième partie du spectacle, c'est plutôt la résilience, c'est comment on se reconstruit. Est-il possible de se reconstruire ?
Et alors ce spectacle-là, il sera à destination probablement des personnes qui peuvent être confrontées au TCA, mais aussi à leur entourage. L'idée, c'est de mieux comprendre, d'être sensibilisé à ça ?
Oui, tout à fait. C'est un spectacle que je destine aux collégiens lycéens, fin de collège-lycée. Bon, les troubles apparaissant beaucoup au collège, hein. Mais bien entendu, c'est aussi adressé aussi aux parents. Enfin, en fait, c'est un spectacle qui va être tout public parce que pour moi, c'est très important. Les parents sont souvent démunis face à leurs enfants souffrant de ça, à ce rapport compliqué à la nourriture, à l'adolescence, puisque le corps se transforme, nous échappe quelque part. Et pour moi, oui, il est très important aussi pour eux qu'ils puissent avoir une vision juste de ce que sont ces maladies, de manière à pouvoir accompagner les proches de la meilleure manière possible.
C'est quelque chose qui vous aurait aidé justement d'avoir des grilles de lecture de ce qui vous arrivait à l'époque où vous étiez dedans ?
Ben oui, moi j'aurais énormément apprécié comprendre que j'étais pas la seule à être dans ce cas-là. Je pense que ça, c'est vraiment l'une des choses pour moi à vraiment lever. C'est cette croyance comme quoi on le mérite. Non, en fait, c'est partagé par beaucoup de jeunes filles de nos sociétés. C'est une société compliquée, hein. À la fois, on a des injonctions de beauté infaisables, et à la fois, on a des pubs pour des trucs de la junk food à gogo.
Bien sûr,
et oui. Donc, comment on fait pour trouver comment s'en sortir ? Donc, tout tient encore debout. Le titre du spectacle, ça parle de ce secret impossible à tenir. En fait, tout tient encore debout comme des pierres en équilibre et jusqu'au moment où, en fait, le secret est divulgué, est révélé. Et ça, c'est la chose la plus insupportable pour quelqu'un qui est dans une addiction. Ça me fait penser aussi au syndrome de l'imposteur. Jean-Claude Roman, qui qui en tout cas a massacré sa famille plutôt que de qu'ils connaissent la vérité sur le fait qu'il ne travaillait pas du tout dans la branche qu'il décrit, il n'était pas médecin. Et donc il y a un peu la même chose pour
cette addiction.
Ouais.
Et alors donc le spectacle devra être présenté en automne 2025 au Carré de Château-Gontier.
Ben oui, on espère fort que la première se fasse là-bas. En tout cas, le Carré est est un des partenaires pour accueillir le spectacle. Et voilà, là on est en train de justement essayer de caler un peu plus le calendrier là.
Une première phase de recherche, de récolte, de témoignages. Ensuite, vous passerez à l'écriture. Mais finalement, il y a déjà des images, un déroulé de bien imaginer, de bien penser.
Voilà, en fait, je vais retourner certainement... Enfin, je vais faire une deuxième résidence de collectage, très probablement au service Basinga du CHU de Nantes, qui est un service d'addictologie spécifique pour les TCA, parce qu'il me manque toute la partie aussi prise en charge du côté des soignants, que j'ignore complètement. Et donc j'aimerais bien aller là-bas. Et je sais que pour des personnes qui ont souffert d'anorexie, c'est une période qui est très mal vécue, parce qu'il y a une grande privation en échange de reprendre du poids. Donc voilà. Et donc je me donne jusqu'à fin 2024 pour écrire. Et puis 2025, on a l'année, et notamment, je pense, tout va se concentrer aussi à l'automne, et pour finir, enfin voilà, pour répéter, faire les semaines de résidence et sortir le spectacle.
Merci Lucie d'avoir partagé cette étape de votre travail et d'avoir abordé avec nous cette question des TCA et de ce que ça signifie de vivre avec. Merci beaucoup.
Merci Margot.
Avant de passer à l'actu en bref, on écoute la soirée de Linus Sandberg et de Fleur Offwood.
Et c'est parti pour les brèves. On commence par faire un petit point travaux. Ça faisait longtemps à Laval, dans le cadre des aménagements de la place du 11 novembre. Dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 avril, des travaux de réseau, d'électricité et de gestion de feu seront réalisés. Attention pour celles et ceux qui habitent pas loin, ça pourrait causer des nuisances sonores et puis évidemment des perturbations de la circulation et du stationnement. Et ce sera entre 20h et 2h du matin. toujours à Laval, en lien avec les objectifs de l'accord de Paris lors de la COP21 en 2015, il y a quasiment 10 ans donc, Laval Agglomération a décidé d'engager l'élaboration de son plan climat air énergie territoriale, PCAET pour faire plus court. Il vise plusieurs objectifs comme augmenter l'utilisation des énergies renouvelables pour limiter l'impact du territoire sur les changements climatiques, réduire la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique et bien sûr préserver la qualité de l'air. Si je vous en parle, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est parce qu'une procédure de consultation du public est organisée depuis hier, mardi 2 avril, et elle dure jusqu'au 2 mai à 18h. Vous pourrez trouver toutes les infos sur le site aglo-laval.fr et ensuite envoyer vos observations et propositions à l'adresse planclimat@aglo-laval.fr. Pour continuer sur le sujet de l'écologie et comme on est des gens propres en Mayenne, le conseil municipal des jeunes de Cossé-le-Vivien organise sa matinée citoyenne « Nettoie ta ville » et ça se passera samedi 13 avril de 10h à midi avec un rendez-vous au kiosque Place du Champ de Foire à Cossé-le-Vivien. Et dans les derniers rendez-vous, peut-être que vous le saviez déjà, mais ce mois-ci, c'est la 6e édition du mois de l'accessibilité en Mayenne, où 13 animations sont programmées. Ça a commencé hier, mardi 2 avril, et ça dure jusqu'au 3 mai 2024, donc. Et vous pourrez trouver tout le programme sur le site de Mayenne Tourisme. Côté météo, je ne vais pas avoir l'opportunité de trop m'attarder puisque c'est nuageux tout l'après-midi, avec des températures à 15 degrés en moyenne, jusqu'à 16 degrés à Cran ou 13 degrés à Lehors, et ça descendra progressivement à 12-13 degrés dans la soirée puis la nuit, avec l'arrivée des rares averses pendant la nuit et qui vont d'ailleurs rester avec nous jusqu'à demain soir. De quoi faire remonter le taux d'humidité chez Johanna, mais ça tombe bien, ces plantes aiment bien qu'il ne fasse pas trop sec. Pour les températures, demain matin, on reste stable avec 12-13 degrés en matinée, puis entre 14 degrés comme à Mayenne par exemple et 17 degrés à Château-Gontier. Et dans la soirée, ça se calme sur la pluie, mais on garde des températures à une quinzaine de degrés. Et en ce qui concerne le vent, Johanna, je pense que tu peux prévoir un chignon bien serré pour demain parce que les rafales vont continuer à souffler à une cinquantaine de kilomètres heure aujourd'hui et jusqu'à demain après-midi.
Des récompenses au féminin, Lucie.
Et oui, jeudi dernier, c'était la 12e édition d'un trophée qui s'appelle Industrie L, porté par l'UIMM, dont tu parlais en introduction. Et Margot, c'est parce qu'on ne connaît pas très bien les métiers de l'industrie et on se doute encore moins de la part des femmes dans ces métiers-là. Et les industries, elles, ont voulu les mettre à l'honneur déjà pour valoriser la place des femmes encore assez faible dans ce secteur, 22,6% si je ne dis pas de bêtises pour l'instant, et aussi quelques objectifs bien précis en tête derrière cette récompense, comme mieux intégrer les femmes par, par plein de biais et faire connaître les métiers de l'industrie, notamment aux jeunes femmes justement, avec des modèles féminins. Il y a deux trophées qui sont remis par département, mais nous en Mayenne c'était trop difficile de choisir parmi les parcours et du coup quatre femmes ont été mises à l'honneur, Élodie Ménian pour sa reconversion remarquable, Alexandra Jamin pour son parcours remarquable, Myriam Deray et Lamia Bouzidi, toutes les deux en coup de cœur. On écoute Myriam Deray et Alexandra Jamin nous raconter comment elles vivent ce moment.
Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous recevoir de façon à pouvoir mettre à l'honneur à nouveau des femmes de l'industrie de la Mayenne.
Alors je suis Myriam Deray, je travaille en tant que responsable bureau d'études chez Valor. Pourquoi j'ai été récompensée ? Parce que je ne sais pas exactement ce qui les a fait choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre. Je suis assez impressionnée par le parcours des autres plus que par le mien, pour être honnête. Les parcours sont ouverts à tous. Et ce qui est mis en valeur, c'est qu'on n'est pas assez nombreuses. Le problème, c'est que les femmes sont initialement poussées à ne pas aller forcément vers les domaines scientifiques en général, ou si c'est dans les domaines scientifiques, plutôt vers tout ce qui est médecine, biologie, et moins vers la mécanique. Et c'est ça qui est dommage. Il n'y a pas de qualité typiquement féminine ou typiquement masculine. Tous les métrologues sont perfectionnistes, par exemple, donc hommes ou femmes. S'ils ne sont pas perfectionnistes, ils ne sont pas métrologues. Et après, on prend peut-être plus de soins sur certains éléments, mais je pense que c'est des qualités qui sont aussi réparties chez les hommes aussi.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, un trophée comme celui-ci, justement ?
C'est assez gratifiant de se voir reconnu. Et bah, ça représente aussi un peu une pression sur le fait de devoir être un modèle. Là, quand il parlait de tout ce qui était le tutorat aussi de collégiens ou des choses comme ça, on se dit, bah, j'en fais déjà un peu, mais c'est vrai que comment peut-on faire plus encore ? C'est ça la question. Mais ça devient parfois difficile de savoir quoi faire de plus puisqu'on a eu un parcours où on avait déjà aussi le caractère pour y aller et la motivation. Donc parfois, ça peut être aussi compliqué de comprendre que certaines ont plus de barrières que nous. Donc on le sait, mais c'est parfois difficile à anticiper que certaines familles sont moins ouvertes que d'autres, qu'il est parfois plus difficile de se battre et de trouver des modèles pour le faire.
C'est important, selon vous, qu'il y ait des modèles ? Est-ce que vous en avez eu ?
Alors, moi, j'ai pas eu de modèle féminin, mais j'ai une famille qui était très ouverte. Ma famille m'a laissé faire tout ce que faisait mon frère. J'étais dans le même lycée que lui, j'ai suivi la même école que lui. Ça, c'était pas forcément volontaire à la base. Mais voilà, donc mon modèle a été mon frère. Et après, dans l'industrie, j'ai eu des modèles. Mon manager, c'était un mentor. C'était plus qu'un modèle, c'était vraiment un mentor. Et c'est ça qui aide. Chez Valeur, on a aussi une femme directrice qui me permet de se dire... Elle a commencé en tant qu'ingénieure comme moi, elle est finie directrice d'un site et directrice commerciale maintenant, donc c'est possible. C'est un exemple.
Moi, c'est Alexandra Jamin, donc je travaille chez Vilo depuis 19 ans et je suis agent de maîtrise.
Vous avez été récompensée d'un trophée industriel pour, je crois, parcours remarquable. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un tel trophée ?
Eh bien, ça met en valeur le parcours des femmes. L'industrie, c'est très masculin et ça permet de montrer que les femmes aussi peuvent évoluer dans l'industrie. Donc voilà, j'en suis très fière. Avec de la détermination, la motivation, tout le monde peut y arriver. Il ne faut pas se mettre de barrières. À partir du moment où on se met des barrières, forcément, on ne va pas avancer. Donc, il faut se donner les moyens d'y arriver. Rien n'est impossible, en fait. C'est ça, la vraie phrase. Rien n'est impossible, il faut se lancer. Eh bien, oui, il faut avoir des modèles pour peut-être inconsciemment se rendre compte que tout le monde peut y arriver, en fait. C'est quand moi je vois mon ancienne manager, elle a eu un parcours comme le mien, a démarré opératrice, elle a fini responsable qualité et après peut-être qu'elle fera autre chose. Donc forcément, inconsciemment, on se dit que c'est possible. Mais après, pour moi, c'est pas une question d'être un homme ou une femme. Pour moi, tout le monde peut faire n'importe quel métier. Que c'est un métier féminin ou masculin, on s'en fiche en fait. C'est faut suivre ses envies. Donc tout le monde a les qualités, qu'on soit un homme ou une femme. Après, c'est sûr, ça ne vient pas tout seul. Donc il faut quand même du travail, il faut de l'organisation et il faut de la détermination. Ouais, un soutien familial quand même, c'est important, parce que quand on reprend ses études tard, eh bien, si on n'a pas la famille pour nous soutenir, mes parents qui ont gardé mes enfants quand j'étais pas là, forcément c'est plus compliqué.
Dans votre parcours, ce que vous avez expliqué pendant votre discours, c'est que vous avez repris des études
20 ans après, donc oui, c'est un peu difficile parce que le cerveau n'est plus trop habitué à enregistrer. Il faut toujours s'accrocher, même si parfois on a des doutes. Il faut s'accrocher quand même, puisqu'au final, quand on réussit et toutes ces difficultés-là, on les oublie un peu.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Bonjour Soizic, vous nous avez rejoint en studio. On vous écoute dans quelques instants pour votre chronique « Un autre écho de l'écho ». Et alors Soizic, quand il s'agit de puces, la mondialisation peut gratter très fort.
Mais oui Marco, parce que, déjà bonjour à toutes et à tous, mais nous verrons aujourd'hui que la science économique n'avait pas tout prévu quand elle nous a vendu la mondialisation heureuse et que les puces en sont l'exemple parfait. Et un peu inquiétant.
On écoute la suite dans quelques instants. Lucie, tu nous proposes un petit morceau avant.
Oui, je ne fais pas très original aujourd'hui, Margot. Ça ne sera peut-être pas une découverte pour la plupart d'entre vous. Mais je me sentais un peu dans une ambiance girl power. Et quoi de mieux pour accompagner ça que Doja Cat ? Alors on écoute Paint the Town in Red.
Thank you. I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'll make your shit if you send for me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Yeah, said pop make money, now you try, bitch. You could use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't new, I'd win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said, I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red.
Et alors nous voilà arrivés au moment de la chronique du jour avec Soizic. Donc on écoute un autre écho de l'écho. Soizic, c'est à vous.
Et oui, donc j'aurais voulu revenir aujourd'hui sur l'écart entre ce que nous dit la théorie économique mainstream, c'est-à-dire dominante, celle qu'on apprend dans 80% des universités et qui constitue le dogme ultime de la pensée de nos politiques nationaux et internationaux. Et je voudrais particulièrement revenir sur le dogme de la mondialisation heureuse. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, depuis Adam Smith au XVIIIe siècle et David Ricardo au XIXe, il est une sorte de consensus économique qui affirme que chaque pays doit se spécialiser dans la production du bien pour laquelle il est le plus efficace. La France sait produire du vin et du luxe, qu'elle se spécialise dans ses produits. Le Cambodge sait produire des t-shirts et du caoutchouc, qu'ils se spécialisent dans ces deux productions. Les deux pays échangeront alors leur production sans perdre de temps à fabriquer des biens dans lesquels ils ne seraient pas fortiches. In fine, comme disent les économistes, le PIB mondial sera bien supérieur si chaque pays se spécialise et échange avec les autres plutôt que de vouloir conserver sa souveraineté et son autosuffisance en produisant un petit peu de tout. Produire beaucoup permet en effet de diminuer les coûts fixes de chaque produit et donc les prix. C'est ce qu'on appelle en économie les économies d'échelle. Le consommateur sort donc gagnant de la mondialisation définitivement heureuse pour nos chers économistes, politiques et hommes d'affaires de tout poil. Sauf que ça n'est pas si simple. Parce qu'il y a en effet des trucs auxquels nos penseurs n'ont pas pensé. Et dans ces trucs, je pourrais vous parler bien évidemment des matières premières, principalement des matières agricoles, mais aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des semi-conducteurs.
Mais qu'est-ce qu'un semi-conducteur, Soizic ?
Alors, un semi-conducteur, eh bien, c'est un composant que l'on met dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos batteries, dans nos voitures, dans nos avions, et qu'utilise également des secteurs bien plus cruciaux comme la défense ou la conquête de l'espace. Bref, on met des microprocesseurs, des puces absolument partout. Et c'est ce qui nous permet d'avoir accès à notre incroyable confort moderne et à pas cher. Fort de cette démonstration rationnelle, les dirigeants des multinationales dans les années 80 et 90 se sont donc empressés de vider leur pays de leurs entreprises et de sous-traiter toute la production de semi-processeurs à Taïwan et plus exactement à la société TSMC qui depuis elle a bâti un véritable empire, notamment pour les transistors de dernière génération qui ne mesurent, tenez-vous bien, qu'un 20 millième du diamètre d'un cheveu humain. C'est vous dire, oh, la technologie est allée. Les États-Unis sont ainsi passés de 37% de la production mondiale en 1990 à seulement 12% aujourd'hui. Taïwan, à elle seule, produit quant à elle plus de 90%, pas plus, mais c'est déjà bien, 90% des microprocesseurs dernière génération dans le monde.
Mais alors ce déséquilibre pose forcément problème.
Mais oui, vous dites bien Margot. Parce que d'une part, nous les pays avancés, nous les pays riches, nous les pays qui ne pouvons nous passer de ce confort, eh bien nous mangeons dans la main d'un tout petit pays qui fait la pluie et le beau temps en termes de quantité produite comme en termes de prix. Par exemple, au sortir de la pandémie de Covid-19, eh bien, l'usine Renault de Sandouville, pour ne citer qu'elle, mais ça a été le cas pour un grand nombre d'entreprises dans le monde entier, eh bien, a dû arrêter sa chaîne de production 3 semaines parce que TSMC n'arrivait plus à fournir. D'autant que, et c'est le second problème, Taïwan est une province historique de la Chine et que les Chinois convoitent bien évidemment le rattachement de l'île à l'Empire du Milieu. Un petit peu façon Tibet, quoi. Alors, face à ce péril technologique, les États-Unis cherchent désormais à rapatrier la production de ces petits bijoux, notamment sous la pression du Pentagone, qui, lui, souhaite recréer une capacité de fabrication de puces dernier cri pour sécuriser l'approvisionnement dans le domaine de la défense. De ce fait, Intel, entreprise américaine, a de fait investi 200 milliards d'euros aux États-Unis avec beaucoup de subventions publiques et 30 milliards en Allemagne avec encore beaucoup de subventions publiques. Globalement, l'Union européenne, elle aussi, a depuis 40 ans concentré son attention sur la conception et non sur sa production de microprocesseurs. Et donc, parmi les plus grands fabricants européens, beaucoup ont conservé des unités de fabrication, mais n'ont en aucun cas investi dans de nouvelles capacités, préférant justement travailler avec des fondeurs comme TSMC. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe accuse un retard technologique de plusieurs générations et reste totalement dépendante de ces TSMC, voire de Samsung. Alors vous voyez, la mondialisation n'est au bout du compte pas toujours heureuse. Et les économistes ne pensent décidément pas à tout. Et à force de vouloir mettre le monde en équation et d'afficher une normativité résolument optimiste, ils en oublient souvent la géopolitique et les comportements humains, bien souvent eux irrationnels. Mais là encore, l'irrationalité est une notion nouvelle en économie qu'il faudrait pourtant développer pour rendre notre bonne vieille science économique un peu plus proche des réalités.
Merci beaucoup Soizic, merci pour cette très belle chronique. L'agité du local est finie pour aujourd'hui. Merci à Lucie Rimbaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Soizic et merci Lucie. Avant de se quitter, je vous parle quand même de ce qui vous attend sur nos ondes. Ce soir à 19h, c'est Novorama, Lucie.
Et oui, un milieu de semaine que l'on booste en début de soirée avec une sélection indie rock et pop électro, des sorties d'albums et des groupes émergents.
Ensuite, à 20h,
c'est The Voice of Cassandre. On continue en musique, mais on goûte à tous les styles, avec une découverte d'artistes en tout genre.
Et on termine la soirée avec Chaosphere.
À 21h, on écoute les nouveautés Thrash ainsi que 2 titres du groupe lavallois Darken avant leur passage au Hellfest.
Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission en très bonne compagnie puisque nous serons avec Magali Grégoire et Pierre Bouguet pour fêter les 10 ans de leur spectacle Bap di Boop. D'ici là, tout simplement, faites-le bien.
Ah.
peux couper la radio, Mimi, c'est fini.
Ah non, t'as pas bien écouté. Les autres émissions qui arrivent, elles ont l'air super.